Chapitre 59. Le vent se montrant plutôt paresseux, Bannon avait les mains douloureuses à force de ramer. Dès qu'il se reposait, Lila le relayait et ne se ménageait pas non plus. Après leur séjour sur la galère de Calvaire, ils étaient endurcis, et là, ils souquaient pour sauver leur peau. Leur évasion remontait à la veille. Dans le bastion bondé d'ivrognes, personne ne s'en était aperçu. Hélas, ils avaient dû laisser derrière eux le pauvre Emmett, assez courageux pour les aider, mais pas pour les accompagner. Naviguant voile abaissée, Bannon n'avait pas trouvé la paix avant la nuit, la certitude qu'aucune galère ne les suivrait. À présent, il dérivait sans carte, sans instruments, sans nourriture et sans eau. Si grand expert de la navigation qu'il fût, Bannon aurait été bien en peine de dire où ils allaient. Convaincu qu'il savait ce qu'il faisait, Lila continuait à se fier aveuglément à lui. À l'aube, ils n'aperçurent pas trace de la terre, mais ne virent aucune voile bleue foncée derrière eux. Reposés, ils firent l'inventaire de leurs coquilles de noix. Un rouleau de corde, un filet et un harpon. Acharné, Lila barda l'eau de coups de harpon et, au bout d'une centaine de tentatives, pêcha un poisson qu'elle jeta au fond de la barque. « Et voilà un bon repas !» Avec le harpon, elle fendit en deux son trophée et le vida. « Les entrailles sont bourrées d'humidité. On les partagera. » Bannon eut un haut-le-cœur à cette idée, mais il dut reconnaître qu'elle était judicieuse. « On a avalé pire. Douce mère la mer, on s'en sortira peut-être grâce aux norukaïs qui nous ont appris à manger des immondices et à ramer pendant des heures. Ce seront sans doute les clés de notre survie. Je voudrais remercier Calvaire et même cette garce Data. Tu crois que ce sera possible ?» Bannon eut un rire rauque. « Même si tu insistes, nous ne ferons pas demi-tour. Mon gars, je plaisantais. Moi aussi. Parfois, tu n'es pas très facile à suivre. Bill Vesé, mes raisonnements sont très clairs. C'est toi qui devrais faire un effort. » Avec ses bleus et ses entailles, Lila était quasiment défigurée. À cause des coups reçus, Bannon supposa qu'il n'était pas plus fringant. Au bastion, il n'avait guère eu le temps de se contempler dans un miroir. Le troisième jour, brûlés et desséchés par le soleil, les deux fugitifs n'aperçurent toujours pas la terre, ni même l'ombre d'un îlot. L'après-midi, comme pour briser la monotonie de la traversée, Bannon repéra une grande tache noire dans l'eau. Tendant un bras, il fit sa cueillette. « Du varech !» expliqua-t-il à sa compagne. « Dans les frondes, il y a du liquide !» Le jeune escrimeur appuya très fort sur le bout des frondes garnies de vésicules. « Si tu bois de l'eau salée, » dit Lila, « tu auras de plus en plus soif et ça finira par te tuer. Non, parce que l'eau qui est à l'intérieur est filtrée par la plante. Le goût est répugnant, mais ça désaltère. » Avec l'ongle d'un pouce, Bannon entailla une vésicule, puis la vida de son précieux contenu qu'il proposa à Lila. « Tu es sûr de toi ?» demanda la Morassite. « Sur l'île de Chiria, tous les pêcheurs savent ça. Alors, pourquoi dois-je goûter en premier? Tu veux voir si c'est empoisonné ?» Bannon fut blessé par la remarque. « Non, j'essayais juste d'être galant. « Merci. Parfois, ça me passe au-dessus de la tête. » Lila but et fit la grimace. « Pas plus répugnant que les entrailles de poisson. » « Une sacrée façon de dire merci. » Bannon chercha une nouvelle vésicule, l'entailla et se força à boire. Il eut du mal, mais il le fallait pour ne pas mourir de soif. Avec le harpon, il coupa une longueur de varech et la chargea dans la barque. 20 vésicules intactes, une pêche quasi miraculeuse. Le varech étant un habitat prisé des poissons, Lila en attrapa 6 avant qu'ils aient traversé le banc. Bannon en saliva d'avance. « Merci pour tout, Lila, » dit-il. « Tu as promis de me sauver et tu n'as pas menti. »« Tu n'es pas encore tiré d'affaire, mon gars. »« Peut-être, mais je ne suis pas mort, donc ta mission est à moitié remplie. » Quand la mer se démonta, le vent gagnant en puissance, les nuages gris s'épaissirent pour devenir quasiment crémeux. Du coup, la barque avança plus vite, mais la question restait entière, vers où allait-elle? Sur son île, Bannon avait assisté à plus d'un gros grain. Alors que sa mère et lui se confinaient dans leur modeste demeure, son poivreau de père râlait parce qu'il ne pouvait pas aller à la taverne. Tandis que les voiles se gonflaient, les longs cheveux de Bannon flottèrent au vent. Lorsque les nuages crevèrent enfin, les deux jeunes gens accueillirent avec joie les premières gouttes, puis ils levèrent la tête, laissant l'averse chasser le sel de leur peau et les désaltérer. « Nous n'avons pas de récipient !» grogna le jeune escrimeur. « Toute cette eau sera gâchée !» Bois autant que tu pourras, conseilla Lila. Comme un oisillon qui demande la béquée, elle tendit le cou, bouche grande ouverte. Bannon mit les mains en coupe, attendit qu'il y ait assez d'eau et but tout en humectant ses lèvres craquelées. Mais comment stocker le précieux liquide? Au fond de la barque, plein d'immondices, il se transformait en boue. Nous n'avons rien, pas une seule casserole, et toute cette eau se perd, douce mère la mer. Tes vêtements! S'écria Lila. Enlève ta chemise et ton pantalon. Pardon? Bannon palpa sa chemise déjà trempée. Retire tes habits, mon gars, et plus vite que ça! En un éclair, aidé par la moracite, Bannon se retrouva en sous-vêtements. S'emparant de la chemise et du pantalon, Lila les écarta bien pour qu'ils se gorgent d'eau, puis elle les roula en boule. Il suffira de les essorer pour avoir un peu d'eau. Pour un ou deux jours, ça devrait faire l'affaire. Je t'imiterai bien, mais le cuir ne conviendrait pas. Je n'aurais peut-être pas dû jeter ma fichue robe. Quand le vent fut assez violent pour risquer d'arracher la voile, les deux jeunes gens la décrochèrent. En la pliant, ils ménagèrent des creux, histoire de recueillir un peu plus d'eau. Au bout d'un moment, Bannon utilisa la corde pour s'attacher au mât en compagnie de Lila. « Si on tombe à l'eau, ce sera la fin du voyage. Là, on est en sécurité. »« Sauf si la barque chavire. C'est un risque qu'il faut courir. » La tempête dura des heures. Malgré des vagues violentes au point de flanquer le mal de mer à Bannon, la barque résista. Vers minuit, la pluie cessa et un épais brouillard se leva. Impossible de voir à travers ce rideau. Pas bien grave puisqu'il n'y avait rien autour d'eux. Trempés et gelés, les deux jeunes gens souffraient d'autant plus à cause de leur peau brûlée par le soleil. Voyant Lila trembler, Bannon ne put s'empêcher de l'imiter. Bannon, farmer, je crois que nous n'accosterons plus jamais. Quand Lila l'appelait par son nom, le jeune escrimeur ne se faisait pas d'illusions sur la gravité de la situation. Je ne t'aurais pas sauvé en fin de compte, mais j'aurais essayé. J'ignore où nous sommes, avoua Bannon. Pareil pour la direction que nous suivons. Mais je n'abandonnerai pas pour autant. Cette fois, c'est peut-être mon tour de te sauver. La priorité, dit Lila, c'est de ne pas crever de froid. Elle enlaça Bannon qui lui rendit l'appareil, et ils basculèrent dans le fond de la barque, se serrant aussi fort que possible. Partager ta chaleur corporelle est excellent, fit Bannon. J'ai entendu dire que ça peut sauver des gens quand il fait très froid. Lila pressa sa joue contre la poitrine de son compagnon. Oui, je crois que ça aide un peu. Tandis qu'ils se blottissaient, le bruit des vagues et le roulis les calmèrent comme une berceuse. Oubliant tout, Bannon s'endormit dans les bras de Lila. Au matin, le jeune escrimeur se réveilla, dérangé par un son pour le moins incongru. Une sorte de rugissement lointain. Quand il s'écarta de Lila, elle se réveilla en un éclair et s'assit à côté de lui. « C'est quoi ce bruit ? » demanda-t-elle. À l'évidence, elle redoutait une attaque. Le brouillard se dissipait, laissant un voile gris que le soleil perçait sans peine. Avant même de voir la côte, Bannon identifia le son. Le bruit de vagues qui viennent se fracasser sur des rochers. « Terre ! » s'écria-t-il en se levant d'un bond, au risque de faire chavirer la barque. « J'ignore comment, mais nous avons trouvé la côte. C'est un miracle !»« Ça le sera quand nous aurons accosté, » corrigea Lila. Alors qu'il levait la voile, Bannon se souvint qu'il avait été pareillement perdu en mer des années plus tôt. Une main en visière, il sonda l'eau dans la direction opposée à la côte et ne fut pas surpris d'apercevoir furtivement une silhouette humanoïde. Pas surpris, mais mortellement inquiet. Si les Selka attaquaient, Lila et lui seraient sans défense. Foutaise! Ils n'attaqueraient pas parce qu'ils venaient de les sauver, Lila et lui. Pendant la nuit, ils avaient dû tirer la barque comme la fois précédente. Trop concentrée sur la côte, Lila ne vit pas le Selka. En revanche, elle s'assit, s'empara des rames et se déchaîna. Quand il regarda de nouveau, Bannon ne retrouva pas leur sauveur. En approchant de la terre, il vit l'embouchure d'un fleuve, les contours d'une baie et toute une série de bâtiments. Cinglant vers le large, des bateaux de pêche s'éloignaient de la côte. Même si le port était encore loin, Bannon cria et agita les bras. « Nous sommes sauvés !» Lila rama avec d'autant plus d'énergie. « On ne sait pas où on est, mais ces gens nous aideront sans doute. En échange, on les avertira que des Norokai arriveront bientôt. » Les yeux plissés, Bannon continua à étudier la baie. « Je sais où nous sommes, Lila !» Un des bateaux les avait repérés et des marins agitaient les bras. Stimulés, Lila souka encore plus ferme.
C'est Renda Surbet !»
annonça Bannon.